dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir, Eric Manila qui est avec vous ce soir dans cette édition de l'Amérique et vous, en pleine crise migratoire entre les États-Unis et le Mexique. Des élus républicains du Congrès lancent une procédure de destitution contre le ministre de la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, le tenant responsable de cette crise humanitaire. Avec près de 10 000 migrants franchissant chaque jour la frontière en quête d'un avenir meilleur, le dossier devient brûlant et présente un enjeu majeur à quelques mois des élections présidentielles de novembre. Quels sont les défis majeurs et les solutions possibles pour contenir cet afflux? Nous en parlons dans un instant avec nos invités. Encore une fois, bienvenue dans l'Amérique et vous. L'Amérique vous accueille ce soir Dennis Beaver, avocat à Bakersfield en Californie. Bonsoir, Monsieur Beaver.
Bonjour de Californie.
Merci d'être avec nous. Nous serons également avec René Leck. Il est analyste politique. Il vit dans l'État du Maryland. En ligne également, Jean-François Seznec, politologue, économiste et directeur de Lafayette Group. Nous essayons de joindre. Ils sont déjà là. René Leck, bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Jean-François Seznec, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, merci.
Voilà, il y a donc près de 10 000 migrants qui franchissent chaque jour la frontière sud entre le Mexique et les États-Unis en quête d'un avenir meilleur. Ces migrants viennent de 24 pays différents, alimentant une situation que les républicains décrivent comme un désastre humanitaire. Beaver, votre commentaire.
Alors, c'est tout à fait fou, hein. À mon avis, je vais voter deux fois pour Trump. S'il se présente une troisième fois, je ne vais pas voter pour lui, mais ce qu'il a fait bien, c'est-à-dire il a plus ou moins fermé la frontière, il a dit d'accord, vous restez au Mexique, et donc plus. Éventuellement, vous pouvez venir ici avec Mayorkas et Biden. Alors, c'est un vrai déluge de gens et ça peut plus continuer. C'est la folie et il faut que ça s'arrête tout de suite.
René Leck. Selon vous, quelle est la responsabilité du ministre de la Sécurité intérieure dans cette crise migratoire à la frontière américano-américaine? Les républicains ont déjà lancé une procédure de destitution contre lui.
Oui, écoutez, bon, ça c'est le jeu politique. Je ne pense pas qu'il y ait une responsabilité personnelle, individuelle. Les choses ne se posent jamais en ces termes. Quand il s'agit de questions aussi importantes que la politique migratoire. J'irai même plus loin. Je ne suis même pas certain qu'on puisse mettre la responsabilité même sur l'administration Biden, sur l'exécutif en tant que tel. La responsabilité, c'est celle avant tout du Congrès, à la fois des démocrates et des républicains, qui est tout à fait incapable d'aborder cette question de manière rationnelle. Peut-être pas de la régler une fois pour toutes, parce que le mouvement des populations à travers la planète, c'est pas une question qui se règle juste par des lois. Les êtres humains se sont toujours déplacés, ils continueront de se déplacer en fonction des besoins liés à des questions environnementales, mais aussi à des besoins économiques, des besoins de survie. Ça s'est toujours passé ainsi. Quand il y avait la guerre mondiale en Europe, les Européens se déplaçaient par milliers, par dizaines de milliers en Afrique du Nord et ailleurs. Donc ça a toujours été ainsi, il en sera toujours ainsi. Maintenant, il est évident qu'avec les problèmes politiques qu'il y a dans chacun de ces pays, et surtout la montée des populismes à l'échelle planétaire, aux États-Unis en particulier, mais aussi ailleurs, la question est encore plus politisée qu'avant. Donc chacun cherche à rendre l'autre responsable, alors qu'au fond, la responsabilité, elle est partagée, c'est une responsabilité politique. Et dans le système américain tel qu'il fonctionne, cela doit être réglé par le Congrès. Et ni les républicains ni les démocrates, chaque fois qu'ils ont la majorité, n'arrivent pas à être capables de le régler parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de terrain commun, ils n'arrivent pas à trouver de consensus.
Monsieur Buver, vous êtes d'accord que c'est la responsabilité du Congrès?
Et quand même, le président peut dire « ça s'arrête maintenant ». Tu ne peux pas venir ici, tu restes au Mexique. Et on va voir, puis ce sont les gens qui veulent venir ici pour les raisons économiques. C'est pas qu'ils sont menacés par quelqu'un, pas du tout. Et ça bouffe, oh là là, qu'est-ce que ça bouffe en fric, main d'œuvre. Il faut trouver un endroit pour les loger. Ah mais c'est dingue, c'est vraiment dingue de permettre que ça continue.
Jean-François Seznec, comment vous interprétez l'approche des élus républicains dans la résolution de ce problème, sachant que la destitution du ministre Mayorkas qu'il souhaite ne semble pas envisageable compte tenu des forces actuelles au Congrès?
Bah écoutez, je suis plutôt d'accord avec René. C'est vraiment une responsabilité du Congrès et de l'exécutif ensemble. Et ça fait 30 ans qu'on parle de faire une nouvelle loi sur l'immigration et ça ne se passe jamais. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un consensus qui se monte pour arrêter. Et là, je suis d'accord avec M. Buzet, c'est absolument inacceptable ce qui se passe en ce moment. Mais le fait est, c'est que tant qu'on n'aura pas une loi forte qui permet l'arrêt de l'immigration de tous les points de vue, et du point de vue légal, qu'on réussira. Il faut donc que le Congrès se mette d'accord, que les deux parties se mettent d'accord, et bien sûr, dans un système où maintenant, en ce moment, on va avoir les élections bientôt, tout le monde essaye de prendre avantage ou de faire des points, de marquer des points contre l'opposant, mais ce n'est pas du tout comme ça qu'on va résoudre le problème. Il faut vraiment qu'il y ait une vue nationale de la chose et que les gens mettent leurs désaccords de côté et trouvent un consensus.
Et quelle est votre interprétation des propositions et des critiques fréquentes formulées par les républicains à l'égard des démocrates sur le contrôle des frontières, Jean-François Seznec?
Bon, écoutez, moi je suis pas vraiment républicain, mais je trouve qu'effectivement ils ont quand même ils ont souvent raison parce que il n'y a pas assez d'autorité, si vous voulez, pour donner. Les autorités locales n'ont pas assez d'autorité pour vraiment arrêter net, même violemment, l'immigration. Donc il y a trop de faiblesse, si vous voulez, du côté des démocrates. Et là, les républicains ont raison de critiquer, si vous voulez.
Monsieur Beaver, vous avez dit tout à l'heure que lors de l'administration Trump, il y avait moins de migrants qui franchissaient la frontière. C'était pendant la Covid. On sait que on était confinés chez nous. Alors, l'expiration du titre 42 instauré par Trump pendant la pandémie, autorisant l'expulsion immédiate des migrants sans visa, suscite des craintes d'un afflux massif de demandeurs d'asile aux États-Unis. Quel est le fond du problème dans cette crise migratoire actuelle, malgré l'introduction de Remain in Mexico par le titre 8 décrété par Biden, entraînant des refoulements accélérés et des sanctions des interdictions d'entrée et des tentatives persistantes d'arriver aux États-Unis.
C'est très simple, c'est très simple. Les démocrates, Mayorkas, qui a dit « Ah voilà, venez tout le monde, venez tout le monde, et ils viennent !» N'importe quel pays peut pas accepter des milliers de gens qui arrivent chaque jour, c'est fou. C'est crazy, hein? Et rien à voir avec les politiques. Tu dis non, on ferme la frontière. Trump avait raison, il faut créer un mur qui fonctionne. Il faut les officiers de la frontière qui les foutent à travers la rivière au Mexique.
Mais au niveau de la loi... Il y a eu le titre 42, il y a actuellement le titre 8. La loi est toujours sévère.
Oui, mais on respecte rien. On respecte rien. Les démocrates veulent que tout le monde vienne. Hein? Vous êtes chez vous ici. Ah, mais c'est dingue, c'est vraiment dingue. Ça peut plus continuer, et si ça continue, il y a une bonne possibilité que uniquement à cause de ça, Trump sera élu. Et ça, c'est un vrai danger pour notre démocratie.
René Lec, votre commentaire, est-ce que les démocrates, ils ont dit à ces migrants, venez, les portes sont ouvertes?
Oui, non, c'est une caricature, mais Denis est... dit ça un peu par provocation, je sais bien, mais il y a du vrai, hein, malgré tout. Parce que ce qui se passe, c'est que les deux camps ont une attitude un peu caricaturale. D'un côté, les républicains font du populisme, donc ils font dans un extrémisme de rigueur qu'ils ne sont pas en mesure de respecter, parce qu'eux-mêmes savent que l'économie américaine, notamment l'économie agricole, dans le Sud, ne supporterait pas les mesures qu'ils proposent. Ils ne sont même pas convaincus de ces mesures. C'est plus pour des raisons politiciennes qu'ils le disent. Et de l'autre côté, peut-être qu'on peut dire que les démocrates aussi tombent dans l'autre excès, ou également pour des raisons politiciennes, parce que c'est là politiquement leur sert. Et de l'autre côté, ça ne marche pas parce qu'au fond, les Mexicains ne jouent pas le jeu. Vous avez entendu récemment le président mexicain qui fixe un nombre de, qui donne certaines conditions pour que le Mexique puisse jouer le jeu. Et aucune de ces conditions-là, je ne sais pas si je ne veux pas, on ne dirait pas ce qu'a dit, qu'aucune de ces conditions ne sera remplie par les États-Unis, mais ça sera très difficile. Ils demandent 20 millions de dollars américains pour les pays d'Amérique latine et des Caraïbes qui sont les principaux fournisseurs d'immigrés. Ils demandent la levée au moins la suspension du blocus contre Cuba et également l'arrêt des sanctions contre le Venezuela. Sans compter qu'ils rajoutent effectivement que les 10 millions de latinos qui sont aujourd'hui aux États-Unis devront être régularisés. Bon, c'est sûr que toutes ces mesures-là qu'ils demandent ne sont techniquement pas, ne sont politiquement pas possibles en l'état aujourd'hui aux États-Unis. Ça, aucun des partis politiques ne pourrait obtenir un consensus sur de telles mesures. Donc le Mexique même ne joue pas vraiment le jeu.
Et face à cette demande du président mexicain, quelles options l'administration Biden a-t-elle pour gérer la situation indépendamment des exigences mexicaines, René Lec?
Mais écoutez, c'est ce qu'ils font pour l'instant. Les gens sont refoulés au Mexique. Les procédures sont engagées. Je sais que des moyens financiers plus importants ont été mis en place pour avoir plus d'officiels qui puissent traiter les dossiers. Mais de toute évidence, la solution, ils ne l'ont pas trouvée. L'administration Biden n'a pas trouvé la solution, ni les administrations Trump avant, ni celle d'Obama avant, ni encore celle de Bush. On tourne en rond sur cette question-là. Et c'est un peu comme la question des armes, Eric, on en a souvent discuté dans votre émission. Ce sont toujours les mêmes problèmes qui reviennent. Il n'y a absolument rien de nouveau. C'est juste le moment politique qui est différent et qui amplifie une crise plus qu'une autre.
Monsieur Beaver, une nouvelle caravane de migrants s'est formée cherchant à attirer l'attention de la délégation américaine dépêché dernièrement au Mexique. René Lecq vient de le dire tout à l'heure, Washington demande à Mexico d'agir, tandis que le président mexicain conditionne son aide à des progrès dans les relations avec Cuba et le Venezuela et demande une augmentation de l'aide au développement dans la région. Selon vous, quelles sont les options à la portée de l'administration Biden, indépendamment des exigences mexicaines pour stopper cet afflux?
Ça n'a rien à voir avec ça. À mon avis, si tu veux arrêter toute cette craziness, comme on dit, folie, dans les villes, tu dis, on va pas te nourrir, on va pas te loger. Si tu meurs, tu meurs. Simplement. Tu refuses tout. Tu refuses tout. C'est un chantage que le Mexique essaie de jouer maintenant. Je suis pour l'immigration, mais légalement. Légal, pas comme ça. C'est complètement dingue.
Jean-François Sleznek, comment gérer cette situation avec le Mexique qui veut imposer des conditions?
Écoutez, les conditions du Mexique ne sont pas idiotes. Ils ont une raison pour le faire et il est certain que les problèmes ne viennent pas vraiment du Mexique, ils viennent des autres pays. Ils viennent du Venezuela, il y a du Honduras, de d'autres pays. Et il est certain que à long terme, il faut vraiment essayer de redévelopper l'Amérique centrale. Il n'y a pas que l'Amérique centrale d'ailleurs. Il faut se rappeler que il y avait un avion qui a été coincé en France il y a 15 jours parce que des charters entiers d'Indiens de l'Inde viennent, ça arrête au Honduras et remonte vers la frontière américaine. Donc c'est devenu une sorte de honte nationale ou même internationale où des milliers de gens viennent comme ça et en se disant on va toujours passer aux États-Unis parce qu'ils seront acceptés. Ce que dit M. Wieser n'est pas entièrement faux. Il est certain que si on avait une façon très dure de faire la chose, ça aurait peut-être un effet sur les migrants eux-mêmes. Le problème, c'est que c'est vraiment pas très humain de faire ça, mais c'est effectivement, il va peut-être falloir penser à que les deux parties pensent à prendre des responsabilités très dures vis-à-vis de la situation à la frontière.
René Lecq, en Colombie, les autorités signalent une hausse des migrants africains à Bogota avec plus de 200 arrivées quotidiennes en transit pour atteindre les États-Unis. Quelles stratégies peuvent être adoptées pour dissuader ces migrants africains qui dépensent beaucoup d'argent?
À qui vous posez la question, Éric?
À vous, René.
Ah oui, parce que justement, je parlais, je crois que moi, le micro n'était peut-être pas ouvert, parce que justement, je voulais prolonger ce que disait Jean-François tout de suite. Il y a les Africains eux-mêmes. Je vois au Sénégal, il y a eu plusieurs titres à la une de la presse, tous ces deux, trois derniers mois, sur la filière nicaraguayenne. Des tas de jeunes sénégalais embarquent dans des navires de fortune et pour les uns, d'autres ils vont par les airs, passent par le Nicaragua pour essayer d'arriver ici aux États-Unis. Donc comme il le disait tout à l'heure, ce n'est pas seulement du côté des Caraïbes et de l'Amérique, en tout cas au moins du nord de l'Amérique latine, que la pression sur la frontière sud des États-Unis s'exerce. Donc c'est vrai que c'est un problème tout là, mais c'est un problème de développement. Écoutez, même la question, comme le dit Jean-François, dit être d'accord avec mon ami Denis sur peut-être un renforcement de la dureté des politiques. Mais tant que vous n'aurez pas réglé la question du développement. Dans les autres pays en question, le problème de la pression migratoire, il existera toujours. Des gens qui ont faim, des gens qui n'arrivent pas à se nourrir, vous imaginez bien que les lois et les règles deviennent totalement secondaires. Cela a toujours existé et continuera d'exister. Vous imaginez bien que les Ukrainiens qui fuient l'Ukraine à cause de l'invasion et des attaques russes, ils ne se posent pas la question de savoir s'ils ont les papiers pour traverser la frontière pour aller en Pologne ou pas. Que la Pologne veuille les accueillir ou non, ils se débrouilleront pour y aller. Et bien, c'est comme ça dans le reste du monde et ça continuera ainsi. Donc la question, elle est plus globale. Ça pose la question du multilatéralisme, ça pose la question du développement, ça pose la question des projets de développement à l'échelle internationale. En bref, quoi, c'est des questions qui sont quasiment insolubles à titre tout à fait ponctuel. Je ne vois pas comment on peut régler ces types de questions-là. Mais malheureusement, pour des raisons politiciennes un peu partout sur la planète, en Europe, ici aux États-Unis, on fait des émigrés des boucs émissaires.
Jean-François Seznec, en quoi la résolution des causes profondes de la question migratoire, telles que les questions de politique locale, d'économie et de changement climatique, représentent-elles un défi complexe pour Joe Biden ou toute autre administration américaine?
Ouais, c'est un challenge énorme. Il est certain que René a raison. Si les gens étaient contents chez eux, ils ne chercheraient pas à sortir. Donc, il faut voir si on peut développer les autres pays. Mais en attendant, il faut faire quelque chose parce que s'il y a un afflux trop massif, trop rapide, ça va créer des problèmes énormes et ça va créer des problèmes politiques ici qui n'ont pas vraiment grand-chose à voir avec l'immigration parce que ça va faire élire des populistes, ça va faire élire tout un tas de gens qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas une vue morale du monde, si vous voulez. Donc c'est un problème très difficile et c'est pour ça que je pense qu'effectivement il faut renforcer, il faudrait arrêter l'immigration tout de suite, au possible en tous les cas, mais au maximum, et même si c'est dur à faire, mais il faut le faire parce que sinon on va avoir des conséquences économiques et politiques dans ce pays ici qui vont être quand même très graves.
En quelques secondes, comment contrer la désinformation liée à la crise migratoire qui alimente le discours politique aux États-Unis en vue de l'élection présidentielle de 2024? Je commence avec vous, Jean-François Seznec, en moins d'une minute.
Bon, écoutez, je ne sais pas vraiment. Il faut vraiment qu'il y ait une certaine discipline, si vous voulez, qu'il vienne des deux parties. Et ça, c'est mal parti pour le moment. Donc, j'avoue que je suis un peu pessimiste pour ça. Mais, j'aimerais bien entendre ce que disent vos autres participants parce qu'ils auront peut-être de meilleures idées que moi.
Beaver, comment contrer à cette désinformation liée à la crise migratoire qui alimente le discours politique dans la spéculation de la présidentielle de 2024?
Oui, c'est une bonne question. Et si Biden ne fait rien, il va perdre. Il faut qu'il agisse. Il faut qu'il dise « ça suffit, terminé ». On les fout à la porte, dans la fleuve. La plupart des Américains s'en fichent complètement. On a ras-le-bol, 10 millions par jour. C'est dingue.
Et René?
Dans un cercle vicieux dans lequel on n'arrive pas à sortir, Jean-François le disait très clairement, il a tout à fait raison. D'un côté, la crise de l'immigration, on peut la comprendre d'un point de vue humain, etc., pour ceux qui cherchent à venir ici. Mais d'un autre côté, ce que ça fait, ça crée les conditions pour que les populistes et les démagogues des pays qui les accueillent ici, les États-Unis, l'Europe.
Et comment contrer cette désinformation?
Ça crée une forme de populisme, et donc ça développe le populisme. Donc du coup, le populisme, par définition et par nature, il est dans la désinformation, dans la démagogie et dans le mensonge. Et c'est à ça qu'on assiste aujourd'hui. Aux États-Unis, regardez la campagne électorale, regardez les primaires chez les Républicains, ça va être peut-être même la même chose quand on sort aux élections générales. Le mensonge, aujourd'hui, est accepté comme une forme d'expression.
Merci René Lec. On n'a plus de temps, malheureusement, pour continuer la discussion. Merci pour votre contribution, René Lec, analyste et politique. Jean-François Seznec, politologue, économiste et directeur de Lafayette Group. Merci également à Dennis Beaver, avocat à Bakersfield en Californie. C'était l'Amérique et vous, crise migratoire américaine et ses implications politiques. Eric Manelagis était avec vous. Lionel Lunanila Gahima a assuré la mise en onde. Au revoir.